Vous êtes sur la zone payante. Merci de venir nous rejoindre cette semaine. C'est les séries qui débutent. On en a pour notre argent cette année et on va en avoir, j'espère, pour notre argent dans les wildcards. Si vous avez manqué nos prédictions, allez nous chercher dans notre segment sur les prédictions. On va peut-être vous surprendre cette semaine, en tout cas au moins dans une ou deux prédictions, qu'on y va contre le spread. On va voir cette semaine s'il va y avoir des surprises. Il y en a toujours dans les wildcards, alors.
Il faut juste trouver laquelle. On s'est peut-être planté, mais à chaque année, il y en a. Il faut juste trouver lesquelles.
On commence notre période de questions avec Thomas de Bordeaux. Allez, Thomas, comment ça va? D'ailleurs, lui, ça va très bien, hein, parce que tu sais que il nous envoie chaque semaine nos tableaux de prédictions. La semaine passée, j'ai fini avec 11 sur 16 et toi, 10 sur 16, mais tu as remonté notre ami Thomas de Bordeaux parce que vous avez fini tous les deux à 174.
Oh. OK, c'est bon. Bravo, Thomas. Ça, c'est pas la première fois. Hein. Je fais une compétition comme ça, amicale, depuis une couple d'années avec notre cher Robin. Puis, écoute, cette année...
T'es pas en train de me dire si t'es fait battre par Robin?
Il m'a eu à l'usure. Oh, ben. Je te le dis, chapeau, Robin. On le félicite. Nos auditeurs sont forts, pareil.
Non, c'est sûr. Ben, là,
mais ça doit être parce qu'ils nous écoutent tellement.
C'est ça, évidemment.
Sans nous. C'est juste ça. Là.
C'est ça. Sans nous, il serait rien. Mais grâce à...
Ce serait des brebis égarées, tu le sais. Là.
Grâce à nos précieux conseils, c'est des gens qui sont très aguerris.
On dit ce qu'on peut pour se remonter le moral, hein, Jean-Nic?
Ben, écoute, toi, t'as fini avec 174, t'as fini avec 62%. Moi, j'ai fini avec 58%, avec que je passe même pas cette année, là. Fait que, on va en aller chez nous. Quoique, il faut dire qu'à la fin de la saison, j'ai fait le clown pour essayer de te rattraper. Oh, je regrette. Il faudrait que j'arrête de faire ça.
Tu t'es bien amusé, là.
Question de la semaine pour Thomas, on va y en donner une quand même. Le couperet du Black Monday a épargné Bill Belichick. D'après vous, est-ce que cet affreux match Jets-Patriots sera le dernier pour lui à la tête des Patriots? C'est vrai que le match en fin de semaine, c'était pas beau à regarder dans la neige.
Ben non. Quelle triste finale pour Belichick, si ça doit être ça. Tu sais, contre ses ennemis jurés, l'équipe qu'il déteste le plus au monde, puis ils se font planter. Écoute, moi, je le disais tantôt, je changerai pas d'avis là. Je pense que ça peut pas faire autrement qu'être la fin pour Bill Belichick. Ça va tomber d'une journée à l'autre. Il disait qu'il attendait les meetings avec Robert Kraft, puis semble-t-il qu'il y a déjà des meetings en cours là, là-dessus, fait que ça ne saurait tarder, je pense. Mais écoute, ce qu'il coule par-dessus tout, j'en parlais, la mauvaise qualité de ses repêchages, les mauvaises décisions dans les dernières années sur le marché des joueurs autonomes. Mais je continue de croire que Bill Belichick, le coach, peut faire la job ailleurs. T'sais, ça, j'en démords pas.
Monsieur le coach, là, il a battu quand même un record cette semaine, là. Le plus grand nombre de défaites par un entraîneur. Ouais.
Ben on ça, parle c'est pas de ça. Hein. C'est comme quand Brett Favre battait le record de toucher. Ouais. Il battait celui d'interception aussi.
Il y avait en masse de gens pour l'écœurer là-dessus. Là, on dirait que Bill Belichick, là, ça passe free. Là. C'est le plus de défaites. Bon.
Ça s'appelle la longévité, ça, Jean-Nic.
Bon. Dans le cas de mes longévités, mon sifflet ne marche toujours pas cette semaine, alors je vais poursuivre avec la prochaine question.
C'est décevant, là. Les effets sonores dans ce show-là, c'est plus ce que c'était.
Jean-Philippe nous écrit, « J'adore votre podcast, il accompagne toujours bien mon travail. » Mais j'espère que t'es pas, mettons,
docteur, chirurgien cardiaque.
Neurochirurgien ouais, bon, mais je trouve pas une autre affaire sous. Non, c'est vrai qu'on peut accompagner plusieurs professions. Mais tu nous diras, ouais. Jean-Philippe, c'est quoi ta profession, puis on dira si c'est sage de nous écouter pendant que tu œuvres. Lui aussi, sa question parle un peu de Foxborough par la bande. Avec Vrabel qui a été congédié, voyez-vous un scénario où il pourrait revenir avec son ancienne équipe?
Oh, ben là.
Avec la présence de.
Avec, c'est ça. Ouais, il insiste sur avec en lettres majuscules parce que est-ce qu'il pourrait former un vieux couple, autrement dit, Bill Belichick et Mike Vrabel? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, la question d'ego de est-ce que Belichick accepterait de se tasser un peu, d'être à l'écart, tu sais, de jouer. Dans ce cas-là, ça serait peut-être un rôle de mentor pour préparer le terrain, je le sais pas. Moi, je le vois pas, là. Je pense que s'il part, il part, puis that's it, là. Je pense pas qu'il va avoir une demi-séparation une redistribution drôle ou quoi que ce soit, là. Vrabel à Nouvelle-Angleterre, peut-être, mais avec Bill Belichick, je serais très étonné.
On va s'en aller maintenant un peu du côté Jérôme. Ah ben Jérôme, le partisan des Packers, qui nous écrit souvent. Quelle équipe dans chacune des conférences pourrait causer une surprise lors des séries de la NFL? On l'a un peu dit tantôt, nos choix. Moi, je pense que je sais pas si c'est ben, une surprise, mais je pense que Détroit peuvent faire un petit parcours.
Ben, mais la surprise, dans mon cas, ce serait les Rams, là, plutôt, là, parce qu'ils ouais. s'en vont pas là comme favoris à Détroit. S'ils gagnent ce match-là, écoute, là, ils vont avoir vraiment le vent dans le national, pour moi.
Mais une surprise sur leur parcours, là, pas juste en fin de semaine.
Ouais. Oui, c'est ça. Non, je vois les Rams, là, sans dire les Rams au Super Bowl, je les vois gagner un match ou deux. Là.
OK.
Potentiellement. Puis, du côté de l'américaine, parce qu'il dit dans chaque conférence, écoute, même si je t'ai dit qu'il perdra en fin de semaine, s'il y a un potentiel de surprise dans cette conférence-là, une équipe qu'on dort un peu, puis qui a tout le temps le potentiel d'exploser, les Dolphins.
On va poursuivre avec la question de Danny Veilleux.
J'adore le silence.
Non, mais écoute, je sais pas quoi te dire, là, mais... Ils ont signé des gosses à la rue, là.
Ouais. Il y a déjà eu plein de belles histoires comme ça. C'est...
Le gars qui va avoir peut-être le casque avec le micro en défense là, pour placer sa défensive, peut-être qu'il connaît même pas le nom des joueurs.
Ouais, c'est ça, je te dis. Ça fait penser à l'année COVID, quasiment.
Danny Veilleux qui dit « Compte tenu du grand nombre de carrières de qualité disponibles au repêchage, oui. Est-ce que J.J. McCarthy serait mieux de rester une autre année au Michigan? »
Ouais, ben il y en a beaucoup qui disent ça là, dans les rumeurs, genre il pourrait revenir une autre année, même s'il est admissible au repêchage. Tu sais, il a fait son temps, là, il a joué 3 saisons à Michigan. Il y en a qui disent McCarthy a joué seulement 2 saisons comme partant, il a pas tant d'expérience. Puis là, ça pourrait devenir son show l'an prochain parce que il va avoir l'expérience pour vraiment transporter l'attaque là, alors que cette année, c'était vraiment le jeu au sol. Il y a peut-être ça qui rentre dans l'équation, mais moi, je me dis, quand un gars est évalué première ronde à peu près, là, si c'est vraiment ça qui ressort là, dans les prochains jours, tu joues pas avec ce statut-là. Tu y vas au repêchage, tu sais jamais ce qui peut arriver l'année d'après. Michigan, est-ce qu'ils vont... régresser parce que Jim Harbaugh décide de s'en aller, parce qu'il y a plein de vétérans qui s'en vont. Est-ce que lui, il peut se blesser sur le terrain? Tu sais, il y a toujours ce risque-là. Pour moi, si t'es vraiment considéré comme un prospect première ronde, même si t'es pas le premier ou le deuxième, là, go, fais le saut dans la NFL.
Luc nous pose la question. Je suis surpris qu'aucun de vous deux a sélectionné les Ravens en finale du Super Bowl. Ne sont-ils pas les plus forts du moment? Qui pourrait les battre avant la finale? Est-ce que c'est le temps, mon cher Stéphane, de faire nos prédictions pour le Super Bowl?
Ben, allons-y, même si on l'a pas un peu fait la semaine passée, mais je pense qu'on a
prévu
juste
les matchs. Ou... Ouais, exact. Ouais. On a prévu le match, mais là, on n'a pas prévu les finalistes.
OK.
Rappelle-nous quelle était ta prédiction et dis-nous qui peut gagner et qui va battre les Ravens en passant par Baltimore.
Moi,
faut que l'équipe gagne à Baltimore, ça, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Fait que là, de mon côté, moi, j'ai Buffalo dans l'américaine et San Francisco dans national. San Francisco qui gagne le Super Bowl. Écoute, je les avais finalistes au début de l'année contre les Bengals, puis je regrette pas, là. C'est vraiment une machine offensive, défensive. Tout est là pour gagner, là. À moins que Brock Purdy se blesse encore cette année, mais je pense pas. Effectivement que ça va prendre de quoi quelqu'un pour battre les Ravens, mais tu sais, ils nous demandent aussi pourquoi personne a sélectionné les Ravens.
Je pense qu'on a toutes la même réponse. C'est Lamar
qui fiche de Lamar Jackson. Oui. Il faut qu'il nous convainque, puis c'est rien contre lui. Rappelle-toi Peyton Manning au début de sa carrière en série, il l'avait
one and
pas,
done.
Ça fonctionnait
Mr.
pas.
One and done, oui.
Puis à un moment donné, écoute, il en a toujours bien gagné 2 Super Bowl, mais il y a eu cette période-là quand même où on est venu à douter à chaque fois que Manning embarquait sur le terrain en série, on y croyait pas trop. Lamar Jackson en est là en ce moment. Il y a une fiche d'1 et 3. À chaque fois, il se passe toutes sortes d'affaires. Fait que les Ravens, c'est juste ça. Mais est-ce qu'ils ont l'équipe la plus dangereuse? défensivement, oui, c'est une machine à sac du corps. Tu sais, sont vraiment, vraiment dominants. Mais c'est le facteur pour moi là, qui me fait douter.
Ben oui, ben c'est la même chose pour moi. Là. Lamar Jackson, il est bon. Il va sans doute être MVP. Il est capable de pas jouer, avoir des moments bonehead en série. Il nous a pas démontré ça. Il va falloir attendre que ça arrive pour le considérer comme futur participant au Super Bowl. Moi, je vais prendre, comme j'avais aussi au début de l'année, j'avais mis les Chiefs. Je les avais mis contre les Eagles.
Ça doit te porter à réflexion, là.
Ouais, je sais, mais tu sais, je dis n'importe qui a vu voir les 49ers ont compris que c'est l'année des 49ers. Les Chiefs, je pense qu'ils vont avoir un parcours très difficile. Ils vont se rendre au Super Bowl de peine et de misère. Ils vont gagner des matchs serrés. On va voir Andy Reid bien coaché. On va voir Andy Reid qui prépare son équipe pour battre les équipes devant eux, puis ça va marcher. Ils vont en manquer au Super Bowl. Moi aussi, je vois qu'une victoire des 49ers, c'est plate, hein? Mais c'est l'année des Niners, honnêtement, là.
Ouais.
On peut pas nier ça, là. Ils nous ont montré leur supériorité tout au long de l'année.
Ils vont
bonjour et, bonjour et félicitations pour votre balado. J'en manque jamais un. C'est Richard qui nous écrit. Merci, Richard. Moi aussi, je suis un émotif, étant un fan des Raiders depuis très longtemps, comme vous avec vos Dolphins et Vikings. Mais là, Richard, malheureusement, là, on sera plus collègues d'émotion parce que moi, j'ai fait une croix un peu sur cet ancien Jean-Nic qui était émotif par rapport à son équipe auparavant, mais qui maintenant est beaucoup plus cartésien et vit une remise de thérapie qui fonctionne.
Moi, je vais faire une prédiction à Richard Grégoire tout de suite, notre auditeur. L'ancien Jean-Nic, là, l'émotif incontrôlable, ben, il va réapparaître samedi soir.
C'est très mal me connaître. J'ai fait mon deuil de la saison, je te l'ai dit tantôt. Je pense que là, mon cœur va être... Je m'attends à un samedi soir là, très tranquille, regarder le match comme d'habitude, aller me coucher à demi.
Non, mais là,
ça va bien aller.
Écoute, je trouve que tu abuses de ton temps de thérapie au détriment de nos auditeurs qui posent des questions pertinentes.
Maintenant, je suis très content du travail du coach intérimaire d'Antonio Pierce. Ben, Richard, tu devais être content de ma chronique au bar il y a 2 semaines ou 3 semaines où j'espérais qu'Antonio Pierce devienne un entraîneur permanent. Alors, moi aussi, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher les high profile puis se tourner vers des gens qui ont fait fonctionner tes joueurs. Lui dit, j'imagine que le propriétaire, soit Mark Davis, ne veut pas répéter la même erreur lorsqu'il n'a pas nommé Rick Bisaccia comme coach il y a 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que les Raiders feront si jamais Jim Harbaugh est disponible? Écoute, beaucoup de questions. Merci, Richard. Là. En un mot, mettons, là, qu'est-ce que tu penses de la situation d'entraîneur à Las Vegas?
Ben, Mark Davis étant Mark Davis, si Jim Harbaugh se rend disponible, c'est certain qu'il va essayer d'aller au bat pour aller le chercher. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Pierce a fait une très bonne job. Il a amené cette équipe-là à une fiche de 5-4 pendant son passage. Puis il a surtout été backé de façon très vocale, très claire par les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Les Davante Adams, les Max Crosby. Il a semblé très apprécié. Puis après tout l'épisode, la crise, ça a été dramatique un peu les Raiders là, dans les dernières années avec John Gruden, avec Josh McDaniels. Est-ce que t'as pas envie un peu de ça, de stabilité, là, de joueurs qui veulent se défoncer pour leur coach puis d'une relation harmonieuse? Je pense que ça ferait du bien aux Raiders personnellement.
Renan nous dit « Vous faites vraiment un bon balado. Merci Renan. J'aimerais savoir si vous avez un livre à me recommander. » qui explique bien les rudiments du football.
Il dit en français ou en anglais, c'est important parce qu'en français, là, on trouve vraiment pas grand-chose. Si les auditeurs en connaissent, là, allez-y, ça va nous faire plaisir de le mentionner. En anglais, ben écoute, c'est un classique, là, puis il faut pas le prendre mal, mais pour les débutants, Football for Dummies, là, tu sais, la fameuse série « Telle affaire pour les nuls » là, en français. En anglais, c'est Football for Dummies, puis c'est pas dit avec de manière péjorative. Tu sais, c'est coécrit par Howie Long, qui est quand même une légende de la NFL. Puis dans ce genre de livre-là, ce que tu retrouves, ben c'est ce que Rénal recherche certainement, c'est-à-dire les règles, les stratégies les plus importantes, les formations de base, les joueurs à surveiller, des trucs comme ça, les explications là, des positions. Fait que je pense que c'est un genre de livre idéal là, dans ce qu'il recherche.
Notre ami Matt Baker. Hey, Matt, lui, il est content. C'est notre plus ardent partisan des Cowboys qui nous écrit régulièrement. Il nous dit « Salut les gars, c'est le plus heureux des Mathieu. » On n'a pas vérifié avec tous les Mathieu, mais on le croit sur parole. Deux petites questions pour vous. Croyez-vous qu'on va pouvoir avoir notre revanche en finale de conférence contre George Kittle avec son épée de gilet « Fuck Cowboys » ? Et deuxièmement, combien coûteront Dak et Lamb à la fin de la saison? Et merci, go boys.
CD Lamb, là, écoute, on va parler de quoi? On va être proche du 35 millions.
Excuse-moi, mais CD Lamb, Tyreek, c'est genre 125 millions sur 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que CD Lamb, il est en renégociation, là? Cet été?
On est pas mal rendu là, de mémoire, là, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il joue? Si je me trompe pas, les choix de première ronde, c'est des contrats de 4 ans, mais tu peux renégocier au bout de 3, il y a quelque chose comme ça. Là. Fait que je serais pas surpris qu'on en soit rendu là. Mais ça va coûter une beurrée, là, c'est sûr. Puis les Cowboys, il y a pas de doute dans mon esprit, ils vont garder Dak, ils vont garder CD Lamb. T'sais, les joueurs comme ça, ils s'accrochent à eux. Même des fois trop longtemps, t'sais, dans le cas d'Ezekiel Elliott, par exemple.
OK, sa dernière année, Lamb, c'est en 2024. Un salaire de base de 18 000.
18 millions.
Fait que 18 millions, oui, pardon. Donc, est-ce qu'on laisse avec sa dernière année de contrat recrue?
Ben, règle générale, les joueurs qui surperforment à leur contrat d'entrée, les équipes ont tendance à les récompenser en les renégociant un peu plus vite, là. Mais tu vois, regarde, les Vikings ont essayé ça un peu avec Justin Jefferson, ça a échoué. Ça veut pas dire que la relation est cassée, là, mais ça a pas été possible durant la saison morte. Fait que des fois, ça peut être bien compliqué, mais règle générale, c'est comme ça que ça marche. Puis l'autre partie de la question...
Tyreek Hill, c'était 120 millions sur 4 ans.
Fait que c'est ça, c'est une trentaine de millions par année.
40.
On va être dans ces eaux-là, là. Ça, on va être rendu à ça. T'sais, est-ce que c'est lui qui va signer ou Jefferson en premier? Les deux vont vouloir attendre que l'autre signe. Il y a tout ce jeu-là aussi pour qui va être le mieux payé à 100 piastres près. Là.
Bon, puis l'autre question, le karma va-t-il frapper George Kittle?
Ben là, de la façon qu'on a répondu à l'autre question de nos finalistes du Super Bowl, je pense pas. Là, les Niners sont juste comme trop puissants. Mais écoute, les Cowboys ont un club qui peut rivaliser, là, mais...
Mais c'est du billboard materials, en tout cas, là.
Ouais, effectivement.
Jean nous pose une question. En parlant un peu de Joshua Dobbs. Après 3 semaines avec les Vikings et en début de saison avec Arizona, avec Joshua Dobbs, on est passé de révélation de l'année. Il devrait remplacer Kirk Cousins complètement.
Ouais.
Les Jets devraient devraient faire un move pour aller le chercher. Et là, 2 semaines plus tard, il est mauvais. Il est plus assez bon pour la NFL. Alors, ces questions. Est-ce qu'on a démissionné trop vite avec lui? Et qui étaient ses adversaires à ces 2 semaines? Étaient-ils blessés? Est-ce que les autres équipes ont contré Joshua Dobbs avec des actions qui n'avaient pas été essayées depuis le début de la saison? La corde est courte pour un carrière substitut dans la NFL. Merci, Jean.
Oui, la corde est courte, effectivement. Tu sais, ça a été une super belle histoire, Dobbs, mais tu sais, je pense qu'on a vite vu son plafond. C'est un gars qui voit un bel avenir, mais d'après moi, comme réserviste. T'sais, tu veux l'avoir dans ton équipe. Idéalement, qu'il aille plus que 4 jours pour apprendre le playbook, là, parce que là, il a donné en masse dans ce domaine-là, que ce soit avec les Cards ou les Browns ou les Titans ou les Vikings. Il peut être compétent, mais il a quand même montré ses limites. Là. Tu vois, là, avant qu'il perde sa job avec les Vikings, il y avait eu 2 défaites de suite. 8 revirements à ses dépens. Après ça, il y a eu le fameux match de 3-0 là, contre les Raiders. L'attaque était stallée bien raide. Fait que, c'est ça. Je pense que pour l'instant, en tout cas, là, on voit son plafond, mais c'est sûr que ça l'aiderait. Un gars comme Dobbs, tu sais, qui a quand même du talent, qui est quand même athlétique, de se retrouver dans une équipe d'une situation stable puis de rester là, ça l'aiderait beaucoup plus que de faire ses valises à tous les 3 mois. Là.
Jonathan nous pose la question. Bonne année. Après la dernière saison, j'aimerais savoir, selon vous, quels ont été les meilleurs coups des équipes lors de la dernière entre-saison et quels ont été les pires? Est-ce que tu as fait cette recherche-là, Steph? C'est pas une question facile.
Un bon coup qui me vient en tête, c'est niaiseux parce que je te sortirai pas un corps arrière ou quoi que ce soit là. Dans l'entre-saison. Là, on parle pas d'un Joe Flacco qui a signé en novembre. Là. Dans l'entre-saison, moi, j'ai bien aimé ce que les Falcons ont fait en allant chercher Jesse Bates. Il a été vraiment dominant comme safety. Plusieurs gros jeux cette année. Bon, c'est pas le gars qui a mené les Falcons en série. Là, on le sait, ils sont éliminés. Mais quand même, tu sais, ce genre de geste-là qui passe un peu sous le radar, tu te ramasses une équipe puis tu as un impact aussi important. Je pense que les équipes devraient apprendre de ça. Là. Des fois, tu attends un petit peu, tu signes pas nécessairement le joueur le plus convoité, puis finalement, ben, ça porte ses fruits. Puis le move le plus raté...
Juju,
c'est vraiment pénible là, avec les Pats. Puis dans la même catégorie, là, j'ajouterais peut-être Miles Sanders avec les Panthers. On n'a pas entendu parler... T'sais, il avait été le meneur avec les Eagles, mais dans un système très favorable pour la course où les porteurs de ballon paraissent tous bien.
Ça, c'était vraiment un move de câble. T'as bien raison. Thomas nous dit, j'ai une question NCAA pour vous cette semaine. J'essaie d'écouter le plus de bowls possible pendant la période des fêtes et j'ai l'impression que le phénomène des joueurs qui opt-out a été particulièrement présent cette année en comparaison avec les années précédentes. Ça, c'est un sujet qui est récurrent. Nous, à la zone, on en parle souvent. On s'ostine, moi et Steph, d'ailleurs, là-dessus, à point tel que beaucoup de matchs étaient presque gênants, en particulier le Orange Bowl. Au moins, nous avons eu droit à de bons matchs de série. Pouvez-vous expliquer ce phénomène?
Ben, c'est que le opt-out, il y a souvent des gars dans les dernières années qui se déclarent admissibles au repêchage. Puis, ben, pour se préparer, puis pour éviter tout risque de blessure, pour être pas exposé à ça, ben, ils disent, je vais faire l'impasse sur mon bowl. Je jouerai pas au bowl, je vais me concentrer sur le draft. C'est pas un phénomène qu'on voyait avant. On a vu apparaître ça depuis quelques années, là, maintenant. Puis là, c'est vraiment, vraiment répandu. Avant, c'était réservé à une partie très élite des prospects, là, les premiers choix lors de la première ronde. Mais on a vu dans les dernières années, même des gars de 2, 3.
C'est quasiment
ronde,
rendu une façon de se donner de l'importance. C'est quasiment, tu dis, ah non, moi, je peux pas jouer, là, j'ai trop de chances d'être pris en première ronde quand dans le fond, on prend tout. Là, mais juste de dire que tu joueras pas, c'est comme si le monde te revoit, ah, il jouera pas. Ah, c'est vrai, lui, ça se peut que tu sois drafté haut.
Puis, ben, ouais, c'est ça. T'sais, je pense qu'il y a une des affaires qui va un peu, sans parler de régler le problème, mais qui va réduire le problème, c'est que l'an prochain, il faut pas oublier, on passe de séries à 4 équipes à des séries à 12 équipes. Fait qu'il y a quand même plusieurs joueurs vedettes qui vont jouer en disant, écoute, là, j'ai la chance de remporter un championnat national. C'est pas un bowl qui m'amène à rien. Bon,
ça,
j'ai gagné
bon
le
point.
Gator Bowl ou le Mayo Bowl ou le Pop-Tart Bowl ou le Sun Bowl. Puis là, il arrive quoi après? Ah, j'ai gagné un bowl. Mais si tu peux aller chercher un championnat national...
Ouais, mais un bowl, c'est pas mineur. Là. Moi, ça me fait rire. T'sais.
C'est pas que c'est mineur, mais
tu joues
mais
pour
ça
ton université. Tu joues avec des gars que c'est leur dernier match de football meaningful. Tu les abandonnes parce que toi, tu t'en vas peut-être dans la NFL ou peut-être tu vas juste être drafté. Alors que t'as vécu des fois 4 ans avec des gars puis tu les abandonnes quand... C'est une façon de remercier en plus l'université qui t'a permis de faire ton sport. Bravo.
C'est pas tout le monde là, qui pense comme ça. Tu sais, tu regardes dans les derniers bowls de décembre, il y avait Bo Nix, entre autres, à Oregon, qui lui a joué son bowl. C'est un corps arrière qui vraisemblablement va sortir en première ronde. Il y en a qui le font encore, mais je te dirais, moi, que c'est rendu une minorité. Là. Le courant de pensée actuellement dans la NCAA, c'est vraiment, je suis admissible au repêchage, je suis un espoir de premier plan.
J'abandonne mon université, mes coéquipiers, mes partisans. Voilà, c'est super. On se repart. Tu connais mon opinion là-dessus. Steve, lui, pose la question. Avec le match-up Rams versus Lions ce week-end, je me demandais si, selon vous, qui est gagnant de l'échange Stafford contre Goff? Les Lions ont transformé les choix repêchage en Gibbs et Laporta, entre autres, et les Rams ont obtenu un Super Bowl. Je suis curieux d'avoir votre opinion. Excellente question, Steve.
Ouais, ben tu sais, là, il est sorti des stats cette semaine. Je voyais ça circuler. C'était un petit peu drôle parce que là, les stats sont pareils, les deux gars, mais tu peux pas mesurer un échange. Les deux gars ont les mêmes stats. Tu sais, Stafford a conduit les Rams au Super Bowl. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Rams, de cet échange-là?
Gagner
au final. Ils l'ont gagné. Puis le sentiment à l'interne, c'est que Jared Goff les aurait pas amenés là. Écoute, on le saura jamais, mais je pense quand même que Sean McVay connaissait son affaire. Il savait à qui il avait affaire, puis que Stafford les a fait passer à une autre étape cette année-là. En mon sens, ils gagnent l'échange. Sauf que ben les Lions ont extrêmement bien repêché. Tu sais, c'est une chose d'avoir les choix, mais il faut bien choisir. Tu sais, quand les Rams avaient fait l'échange, c'est eux qui avaient échangé, je pense, leur choix à Washington. Puis là, Washington avait mis la main sur le deuxième pick overall pour aller chercher Robert Griffin. Les Rams, après ça, tu sais, bon, je suis pas convaincu qu'ils ont tiré le maximum de cet échange-là. Mais les Lions sont en train de le faire. Donc, chapeau là, de ce côté-là. Puis, Goff, qu'on l'aime ou pas, il y en a beaucoup là qui se plaisent à le planter, c'est un système quarterback puis tout ça. Moi, je pense qu'il vaut quand même plus que ça. Puis, il a permis aux Lions d'être patients dans leur approche. C'est ça que j'aime de leur échange. Là. T'sais, ils n'ont pas été obligés de se garrocher sur un corps arrière parce que là, on n'a pas. Jared Goff a joué mieux qu'on s'attendait, je pense, à Détroit. Il y a eu ses matchs difficiles, évidemment, mais quand même... Tu sais, t'as pas été obligé là de te précipiter là, hey, ça nous prend ce joueur là puis tu sais, moi je me rappelle entre autres les Vikings une année avaient repêché en première ronde un certain Christian Ponder. Je l'ai encore sur le cœur celle-là. Tu sais, un gars comme lui là, justement, c'est parce que les Vikings étaient dépourvus de solutions à ce moment-là, ils savaient pas quoi faire, ça nous prend un corps arrière, on va en prendre un en première ronde. Et puis il a clairement pas été à hauteur. Là, les Lions ont pu être plus patients, repêcher des joueurs de qualité à d'autres positions. Fait que, en ce sens-là, c'est un win-win, mais il reste qu'au final, les Rams ont gagné leur pari.
Et il nous pose aussi la question, je suis en train de chercher Steve, là, pour le Canadian Podcast Awards, on vous avait demandé votre appui, on était en nomination pour le meilleur podcast de sport au Canada. On a été défait.
Ah!
Eh oui, on a été défait. Puis là, je cherche qui nous a battus, là.
Tu nous en as pas parlé, mon snow?
Non, je sais. Mais écoute, à ma décharge, là, les gagnants ont été révélés le 29 décembre.
Oh boy, OK.
J'étais dans mes parties de Noël. Donc, cette année, le podcast qui a remporté le prix dans notre catégorie, c'est Her Love for Sports. Un podcast d'une fille qui m'a l'air tout à fait charmante et qui donc encourage les femmes dans le sport.
OK.
Où on encourage
félicitations.
Les gros gars qui font du sport. C'est moins bon un peu, mais oui. Alors, félicitations à Love for Sports, un podcast donc qui a remporté le prix dans la catégorie meilleur podcast de sport en 2023, qui nous a laissé donc dans la poussière derrière son...
L'année prochaine. L'année prochaine.
You bet. OK, deux dernières questions rapidement. On va y aller avec Lauriane, notre amie française. Salut Lauriane. Elle vient de... L'Auvergne.
Je sais plus.
Alors, plusieurs questions. On va essayer d'en répondre le plus possible. Quelle perspective pour les Bears avec leur premier tour de draft? Un nouveau QB serait-il envisagé? Ah ben là, si quelqu'un a la réponse de ce que les Bears vont faire avec Justin Fields, ben dites-nous-les.
C'est une des belles intrigues des prochains mois. Là. Ça va être à suivre. Parce que, tu vois, le DG Poles a dit cette semaine, « Ouais, Field nous a prouvé que c'était un corps arrière partant dans la NFL. Il s'est beaucoup amélioré. » Mais, il a dit aussi, « Quand tu te retrouves avec le premier choix, c'est une situation unique qui arrive pas souvent. Tu te dois d'évaluer toutes les options. » Fait que, bof, la porte est ouverte, autrement dit, à tout. Puis c'est certain là qu'ils vont se regarder Caleb Williams, puis ils vont se demander, hey, « Écoute, si on le repêche, qu'est-ce qu'on pourra obtenir pour Fields? » Puis je pense que c'est là qu'ils n'auront peut-être pas le choix d'envoyer quelques petits flyers, là, d'essayer de voir hey, qu'est-ce que tu nous donnerais pour Fields, puis de voir un peu qu'est-ce que peut être sa valeur. L'autre chose, c'est que cette année, le premier choix, Caleb Williams, c'est vraiment une année où c'est pas mal clair que ça s'enligne pour être lui. C'est pas mal clair aussi qu'on parle de lui comme d'un prospect très rare. Il va valoir une tonne, ce choix-là. Est-ce que les Bears vont plutôt se dire « On est bien mieux d'échanger le choix. On va se bâtir un club avec ça. On va entourer Justin Fields comme c'est pas possible. » Je sais que ça fait quelques fois, Jean-Nic, qu'on l'aborde, cette question-là, mais on l'a pas la réponse. C'est malheureux, là. J'aimerais ça dire « C'est sûr qu'ils vont faire ça. » Mais c'est très mystérieux. Tu sais, moi, mon feeling, c'est que tu as le premier choix, ça arrive combien de fois, puis là, tu as un corps arrière comme Caleb Williams qui est disponible. J'ai l'impression que les Bears vont y aller en ce sens-là. Ouais. Mais faut vraiment que tu obtiennes une bonne valeur pour Justin Fields. Tu peux pas le laisser aller pour un choix de troisième ronde.
Non, moi aussi, c'est mon feeling. Là, la fin de saison, j'ai vu les entrevues de Justin Fields. Il était très robotique, on dirait qu'il donnait des lignes.
Il a pas été robotique avant de jouer contre les Packers, par contre, en disant c'est normal que les gens de Green Bay sont très intéressés à leur équipe, il n'y a rien d'autre à faire là-bas.
Ouais, non, c'est sûr que quand il est venu parler des Packers, il s'est gâté, mais je sais pas, moi, mon feeling, c'est qu'il reviendra pas. D'ailleurs, dans le moment, Robin, on arrive pour conclure notre période de questions. Lui aussi parle de Justin Fields avec une théorie c'est un peu farfelue. Là. Je pense que là, le Robin, là, t'as pris un de nos cocktails puis t'as un peu abusé. Là. Lui, il voit, il parle des analystes qui disent, à la limite, il se cache derrière les analystes, Robin, puis je trouve ça futé comme stratégie. Il dit, j'ai entendu des analystes dire qu'on pourrait échanger Bill Belichick et qu'il vaudrait un premier choix. Pas sûr qu'il y a ben des analystes qui vont passer l'année à dire ça, mais écoute, peut-être qu'il y en a certains qui ont cru que ça pourrait arriver. Mais bon, disons que dans ce scénario, les Pats échangent Bill Belichick. Est-ce que ça vaudrait la peine de l'échanger contre Justin Fields? Les Pats repartiraient à neuf avec un jeune QB et avec leur troisième choix. Pourquoi ils me parlent d'un troisième choix, les? Avec leur troisième choix, au repêchage, oui, en première ronde, il repêcherait Harrison Jr. et enfin, on aurait un super receveur. Les Bears auraient finalement un vrai coach, et pas le moindre, ouais. Et ont toujours le premier et troisième choix. Qu'en pensez-vous?
Ben, c'est jamais arrivé. Là. Dans l'histoire, il y a eu 8 échanges pour des entraîneurs. Là. Je les ai tous revérifiés. Puis c'est toujours des choix qui sont impliqués. Là. Ça n'a jamais été fait un échange coach contre joueur. Puis en bout de ligne, moi j'ai le feeling que Robert Kraft, il voudra peut-être pas là, s'éterniser. Si vraiment il monte la porte à Belichick, je pense pas qu'il va essayer là, d'avoir une valeur en retour ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va faire, tu sais, comme il a fait un peu avec Tom Brady, là, on te laisse aller. T'as le droit de négocier comme tu veux, pour tous les services rendus depuis 20 ans.
De toute façon, qui voudrait de l'entraîneur qui a le plus grand nombre de défaites dans l'histoire de la NFL?
Personne. Tout le monde sait que c'est un loser.
Bon, tu vois la lumière, enfin, là, je te reconnais.
Ben non, jamais. Mais hey, écoute, je pense pas que ça se ferait. Ça serait drôle, par exemple. Ça serait quand même assez spécial comme échange. Mais je pense qu'au final, Robert Kraft va dire « Écoute, Bill, on t'en doit une. On niaisera pas dans les négociations et dans les compensations d'échange. Essaie d'avoir la meilleure situation possible pour toi. Puis on te reparle quand on va t'introduire dans notre Hall of Fame dans quelques années. »
Merci à tous pour vos questions. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde. N'hésitez pas quand même à nous relancer la semaine prochaine. On va prendre le plus de questions possible.
Ouais.
Vous pouvez le faire en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi être membre du groupe Nos Précieux Conseils Fantasy Football, qui est toujours actif là, malgré qu'on a terminé la saison Fantasy. On va essayer de le faire vivre un peu pendant les séries. Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante.
La zone payante à commercial.quebecormedia.com.
Une pause et on se retrouve de l'autre côté pour aller au bar. Bougez pas.